instruments les uns aux autres, enfin les rendre complémentaires, rendre ces discussions complémentaires. Merci, je donne la parole à un représentant de la société civile. Merci beaucoup. Eh bien, la portée d'un instrument ne se limite pas à un élément. Évidemment, on parle toujours de l'égalité et de la non-discrimination en tant que clé de voûte des droits de l'homme. On parle justement des titulaires de droits. Il appartient à ce groupe de travail de défendre les segments de population et des sociétés qui sont les plus vulnérables et qui sont les plus exposés à des violations des droits de l'homme. Ça, c'est essentiel. Raison pour laquelle ce sont les méthodologies qu'il faut réexaminer. Ce n'est qu'une fois cette étape franchie que les États seront à même de changer le quotidien de tous ces êtres humains. La discrimination ne se limite pas à une région ou à une race, bien au contraire. J'aimerais justement vous donner des exemples de discrimination structurelle en Asie du Sud, les discriminations que l'on rencontre au quotidien dans le contexte de la liberté de croyance et d'opinion. Je suis moi-même allée dans une école qui, en fait, était une école militaire de haut rang dans laquelle on nous disait que les Juifs étaient les ennemis de l'islam et que voilà, il fallait s'en débarrasser purement et simplement sans autre forme de procès. C'était des enseignants en uniforme militaire qui nous disaient qu'il fallait respecter les fusils et les bombes et qu'il fallait justement, avec ces armes, tuer des mères hindoues, à défaut de quoi elles mettraient au monde des enfants dont il faudrait se débarrasser. Enfin, tout cela pour vous dire que on recevait ces messages à tous les niveaux de notre enseignement, de notre éducation, des messages qui incitaient à l'extrémisme, au terrorisme. Et puis, la question du blasphème était utilisée comme prétexte pour viser les secteurs les plus vulnérables de la société et pour s'adonner à des pratiques discriminatoires. Là encore, on accusait n'importe qui de blasphème, on punissait l'ensemble de la communauté et sous ce prétexte, on exécutait n'importe qui, l'accusant de blasphème. Et c'est la raison pour laquelle, on a constaté que les uns et les autres s'étaient vus imposer une nouvelle identité et des populations qui étaient présentes sur notre continent depuis des millénaires se sont vues véritablement éliminées du panorama, c'est-à-dire qu'on les a empêchées d'exister. Et c'est extrêmement dur. Et l'État a pour réfute l'humanité de ces personnes. Il leur refuse le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, c'est-à-dire que ces populations ne peuvent même plus s'exprimer, ne peuvent même plus penser, et ça touche chaque aspect de leur vie quotidienne. Le premier jour de notre réunion, l'un de nos interlocuteurs évoquait justement la néocolonisation. Et ces nouvelles politiques néocoloniales sont inacceptables. Et si elles peuvent être exercées, évidemment, on ne pourra pas lutter contre la discrimination. Là encore, par exemple, pour vous donner l'exemple de l'Afghanistan, de très nombreux projets d'envergure, des projets de développement, d'investissement et autres, qui avaient l'air très lucratifs et très intéressants de prime abord, ont en fait été des outils pour éliminer, pour dominer le peuple de ce pays. Dans ce que l'on appelle le couloir économique de la Chine au Pakistan, là encore, de très nombreux projets d'envergure ont été mis sur pied. Mais en fait, derrière ces projets se cache une véritable politique néocoloniale. Parce que les décisions qui y sont prises font complètement fi de la volonté des communautés, des intéressés. On ne les consulte pas. Ça concerne parfois même l'eau que ces individus, que ces collectivités boivent, ne serait-ce que cela. Donc, aujourd'hui, la population de ce pays, de cette région, donc, compte 18, le Baloutchistan, pardon, compte 18 000 personnes, mais si, eh bien, tous ces 500 000 Chinois arrivent comme c'est ce qui a été envisagé, ils seront littéralement submergés. Comme je le disais, il